Hector Malot, Corisandre. Chapitre 1. La saison de Bade était dans tout son éclat, et une lutte qui s'était établie entre deux joueurs russes, le prince Savine et le prince Otchakov, offrait aux curieux et à la chronique les péripéties les plus émouvantes. C'était pendant l'hiver précédent que le prince Otchakov avait fait son apparition dans le monde parisien et, en quelques mois, par ses gains ou ses pertes, surtout par le sang-froid imperturbable et le sourire dédaigneux avec lesquels il acceptait une culotte de 500 000 francs, il s'était conquis une réputation tapageuse qui avait failli donner la jaunisse au prince Savine, habitué depuis de longues années à se considérer orgueilleusement comme le seul russe digne d'occuper la badauderie parisienne. C'était un petit homme chétif et maladif que ce prince Otchakov, et qui, n'ayant pas 25 ans, paraissait en avoir 40, bien qu'il fût blond et imberbe. Dans ce Paris où l'on rencontre tant de physionomies ennuyées et vides, on n'avait jamais vu un homme si triste, et rien qu'à le regarder avec ses traits fatigués, ses yeux éteints, son visage jaune et ridé, son attitude morne, on était pris d'une irrésistible envie de bâiller. Après avoir essayé de tout, il avait trouvé qu'il n'y avait que le jeu qui lui donna des émotions, et il jouait pour se sentir vivre, autant que pour faire du bruit en ce monde, ce qui était sa grande, sa seule ambition. Sa santé étant misérable, sa fortune étant inépuisable, le jeu était le seul excès qu'il put se permettre, et il jouait comme d'autres s'épuisent, s'indigèrent ou s'enivrent. Comme tant d'autres, il aurait pu se faire un nom en achetant des collections de tableaux ou de potiches qu'il aurait ennuyées, en prenant une maîtresse en vue qu'il aurait affichée, en montant une écurie de course qu'il aurait dupée. Mais en esprit pratique qu'il était, il avait trouvé que le plus simple encore et le moins fatigant était d'abattre nonchalamment une carte, de pousser une liasse de billets de banque à droite ou à gauche et de dire sans se presser « Je tiens ». Et ce calcul s'était trouvé juste. En 6 mois, ce nom d'Otchakov était devenu célèbre, les journaux l'avaient cité, tambouriné, trompété, et la foule moutonnière l'avait répété. Ce jeune homme, qui n'avait jamais fait autre chose dans la vie que de tourner une carte et de combiner un coup, était devenu un personnage. Mais une réputation ne surgit pas ainsi sans susciter la jalousie et l'envie. Le prince Savine, qui, de très bonne foi, croyait être le seul digne de représenter avec éclat son pays à Paris, avait été exaspéré par ce bruit. Si encore cet intrus, qui venait prendre une part, et une très grosse part, de cette célébrité mondaine qu'il voulait pour lui tout seul, avait été anglais, turc, mexicain, il se serait jusqu'à un certain point calmé en le traitant de sauvage. Mais un russe! Un russe qui se montrait plus riche que lui, Savine. Un russe qu'on disait, et cela était vrai, d'une noblesse plus haute et plus ancienne que la sienne à lui, Savine. Il fallait que n'importe à quel prix, même au prix de son argent, auquel il tenait tant, il défendît sa position menacée et se maintint au rang qu'il avait conquis, qu'il occupait sans rivaux depuis plusieurs années et qu'il rendait si glorieux. Alors, lui, toujours si rogue et si gonflé, s'était fait l'homme le plus aimable du monde, le plus affable, le plus gracieux avec quelques journalistes qu'il connaissait, et il les avait bombardés d'invitations à déjeuner, ne s'adressant, bien entendu, qu'à ceux qu'il savait assez vaniteux pour être fiers d'une invitation à l'hôtel Savine et en situation de parler de ses déjeuners dans leurs chroniques, et aussi de tout ce qu'il voulait qu'on célébrât. Son luxe, sa fortune, sa noblesse, son goût, son esprit, son courage, sa force, sa santé, sa beauté. Puis, après s'être assuré le concours de cette fanfare, il avait commencé sa manœuvre. 3 jours après une perte énorme, subie par Otchakov avec son flegme ordinaire, Raphaël, la maîtresse de Savine, avait vu arriver un matin dans la cour de son hôtel 2 chevaux russes superbes, 2 de ces puissants trotteurs qui battent, en se jouant, les Anglais comme les Arabes, et Savine n'avait pas tardé à paraître. Comme Raphaël, menacé d'une angine, disait qu'elle était désolée de ne pas pouvoir faire atteler ses chevaux ce jour même et de sortir, il s'était fâché. C'était justement l'ouverture de la réunion de printemps à Longchamp, et il voulait que ses chevaux fussent vus de tout Paris à cette réunion, à l'aller et au retour. Il ne les avait fait venir de son Arras et ne les avait donnés que pour cela. « Si vous ne pouvez pas vous en servir, avait-il dit, je les garde pour moi, je m'en sers aujourd'hui, et une fois qu'ils seront entrés dans mes écuries, ils n'en sortiront pas. En vous enveloppant bien, vous n'aurez pas trop froid. Il ne faut pas s'exagérer son mal ou l'on se priverait de tout. » Au risque d'en mourir, car il soufflait un vent glacial, Raphaël avait été aux courses et, à l'aller comme au retour, ses trotteurs à la robe grise avaient provoqué l'admiration des hommes et l'envie des femmes. Il fallait continuer, car de son côté, Otchakov continuait de jouer, perdant toutes les nuits ou gagnant des coups de 300 ou 400 000 francs, tantôt contre celui-ci, tantôt contre celui-là, sans jamais lasser l'admiration de la galerie, qui répétait toujours son même mot, « Cet Otchakov, quel estomac !» Ce à quoi Savine répondait toutes les fois qu'il pouvait répondre, en haussant les épaules et en disant que si Otchakov avait de l'estomac devant un tapis vert, il n'en avait pas devant une nappe blanche, le pauvre diable étant incapable de boire seulement les 4 ou 5 bouteilles de champagne qui, chez un vrai russe, remplacent l'acte de naissance ou le passeport pour prouver la nationalité. Pour continuer la lutte, sinon avec économie, au moins d'une façon qui ne fût pas nuisible à ses intérêts, Savine, qui, depuis longtemps, se contentait des collections qu'il avait recueillies par héritage, s'était mis à acheter des œuvres d'art de toutes sortes. Tableaux, bronzes, livres, curiosités, n'exigeant d'elle que quelques qualités spéciales, d'être authentique, d'être dans un parfait état de conservation, enfin de coûter très cher, de telle sorte que, lorsqu'il voudrait les revendre, ce qu'il espérait bien faire un jour, tirant ainsi d'elle deux réclames, l'achat et la vente, il put le faire avec bénéfice, sans autre perte que celle des intérêts. Alors, chaque fois qu'il avait fait une acquisition de ce genre, les journaux l'avaient annoncé et célébré. « Le prince Savine, quel mécène !» Il est vrai que ce mécène ne répandait ses bienfaits que sur des artistes morts depuis longtemps, Obema, Velasquez, Paul Véronèse et autres qui ne lui savaient aucun gré de ses largesses. Mais un seul coup de baccarat faisait oublier mécène et Otchakov, en une nuit heureuse ou malheureuse, s'imposait à la curiosité publique d'une façon autrement vivante et palpitante en perdant son argent que s'il l'avait dépensé à acheter des Rubens ou des Titiens. Ce fut alors que Savine, exaspéré et perdant la tête, se décida à lutter contre son rival en employant les mêmes armes que celui-ci, c'est-à-dire à coups de millions. Otchakov, ne trouvant plus à jouer des grosses parties à Paris pendant la saison d'été, était venu à Bade jouer contre la banque et Savine l'avait suivi, se disant qu'un homme habile et prudent, qui joue contre une banque de jeu, ne doit perdre que dans une certaine mesure, qui peut se calculer mathématiquement et même qu'il peut gagner. Le tout était donc d'être cet homme habile et prudent. Heureusement, les professeurs de système, tous plus infaillibles les uns que les autres, ne manquent pas pour ceux qui veulent jouer à coup sûr. Il y en a à Paris, et à cette époque, il y en avait dans toutes les villes d'eau où l'on jouait. À Bade, à Hombourg, à Wiesbaden, à Ems, à Spa, où il tenait boutique de renseignements et de leçons. Dans un de ses séjours à Bade, Savine avait rencontré un de ses professeurs, un vieux gentilhomme français de grand nom et de belle mine, qui, après avoir perdu plusieurs fortunes au jeu, offrait aux jeunes gens qui voulaient bien l'écouter une rectitude de combinaisons inexorables pour faire sauter la banque. Mais alors, ne pensant pas à jouer, il s'en était débarrassé en lui faisant l'aumône de quelques florins que le vieux professeur allait perdre avec une rectitude inexorable ou qu'il employait à faire insérer dans les journaux des annonces pour tâcher de trouver des actionnaires qui lui permissent d'essayer en grand son système. Arrivé à Bade, il avait cherché son homme aux combinaisons inexorables, ce qui n'était pas difficile car on était sûr de le trouver à la conversation assis sur une chaise devant la table de 30 et 40, suivant le jeu auquel il ne pouvait pas prendre part et notant les coups sur un carton qu'il perçait d'une épingle. Le marquis de Mantaille était si bien absorbé dans son travail qu'il n'avait pas vu Savine et qu'il avait fallu que celui-ci lui frappât sur l'épaule pour appeler son attention. Mais alors, il avait vivement quitté le jeu pour faire ses politesses au prince qu'il avait emmené dans les jardins, ne voulant pas qu'on le vît en conférence avec le vieux professeur de jeu, ni qu'on surprît un seul mot de leur entretien. « 600 000 francs seulement, prince » s'écria-t-il. « Mettez 600 000 francs seulement à ma disposition et le monde est à nous !» Mais Savine avait tout de suite éteint ce beau feu. Il n'apporterait pas ses 600 000 francs, il n'en apporterait pas 50 000, pas même 10 000. Mais il était disposé, dans un but moral et pour sauver les malheureux qui se ruinaient, à essayer le système des combinaisons inexorables, seulement il voulait l'essayer lui-même. Bien entendu, il le paierait s'il gagnait. Le lendemain matin, le marquis de Mantaille s'était présenté à la porte du pavillon que le prince Savine occupait sur le Graben, et tout de suite il avait été introduit. Savine, bien que mal éveillé, avait remarqué qu'il était porteur d'une sorte de petite boîte plate, enveloppée dans une serviette de serge grise et d'un petit sac de toile, comme ceux dont se servent les joueurs de loto. « Je ne recevrai personne !» dit Savine au domestique qui avait introduit le marquis. Pendant ce temps, le vieux joueur avait précieusement déposé sa boîte et son sac sur une table. Puis, le domestique étant sorti, il s'était approché du lit de Savine. Sa physionomie s'était transfigurée. Il avait l'air d'un pauvre vieux bonhomme usé, écrasé, en entrant. Maintenant, il s'était relevé, c'était un homme digne et fier, inspiré, sûr de lui. « Avant tout, je dois vous montrer par l'expérience la rigoureuse exactitude de ce que je viens de vous expliquer, et c'est dans ce but que je me suis muni de différents objets utiles à ma démonstration. » Ces objets utiles à la démonstration des combinaisons inexorables étaient une petite roulette, un tapis de drap divisé comme le sont les tables de 30 et 40, 6 jeux de cartes et enfin, dans le sac en toile, des haricots blancs et rouges. Aussitôt que le professeur eut étalé son tapis sur une table et disposé en deux masses ses haricots, les rouges pour Savine, les blancs pour lui, la démonstration commença. À 11 heures, Savine avait 240 haricots gagnés contre la banque, c'est-à-dire 240 000 francs. Le lendemain, la démonstration continua. Puis le surlendemain, pendant 10 jours, et au bout de ces 10 jours, Savine avait gagné 1950 haricots, c'est-à-dire près de 2 millions de francs. L'expérience était décisive. Maintenant, c'était de vrais billets de banque que Savine pouvait risquer. Mais, chose extraordinaire, au lieu de gagner, il perdit. Et cela était d'autant plus exaspérant que, ce jour-là, Otchakov fit sauter la banque au milieu de l'enthousiasme général. Le lendemain, Savine perdit encore, puis le troisième jour, puis le quatrième. « Courage !» disait le marquis de Mantaille. « Plus vous perdez, plus vous avez de chances de gagner. L'équilibre ne peut pas ne pas se rétablir. » Cependant, il ne se rétablit point. Au bout de 15 jours, Savine avait perdu 500 000 francs et, ce qui lui était plus sensible encore que cette perte d'argent, il les avait perdus sans que cela fît sensation et tapage. « Il n'a pas de chance, le prince Savine » disait-on. Et pourtant, il est prudent. Prudent et malheureux, c'était trop. Quelle honte! Cependant, il n'abandonna pas la lutte. Mais, puisque le jeu ne soulevait pas le tapage qu'il avait espéré, il chercha un autre moyen pour forcer l'attention publique à se fixer sur lui, et il crut le trouver en s'attachant très ostensiblement à une jeune fille, Mademoiselle Corisandre de Barizel, qui, par sa beauté éblouissante, était la reine de Bade, comme Otchakov en était le roi, par son audace au jeu.